Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à La Croche-Oreille, cette émission en art audio de CKRL, une émission qui vous est présentée à chaque semaine, le dimanche soir, en collaboration avec Avatar, centre d'artistes, notamment en art audio et en art électronique. C'est Jean-Pierre Gay qui vous parle. Je suis avec Myriam Lambert. Bonjour, Myriam.
Bonjour, Jean-Pierre.
Myriam, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui qu'on accueille quelqu'un qui récemment était à Méduse dans le cadre du Mois Multi, qui nous a présenté un curieux numéro avec une chaise. C'est James Partec. Alors, James, bonjour.
Bonjour.
James, pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que tu pourrais rappeler un peu quel était le but de cet exercice-là, puis surtout, qu'est-ce que c'est que tu as fait devant les spectateurs chez Méduse?
Bien, ce que j'ai offert un peu comme performance, c'était une sorte de tour virtuel de la Ville de Québec, une cartographie sonore qui nous dévoile des sons qui sont présent, mais souvent caché par des certains cloisonnements dans les édifices ou dans la rue, etc. Donc, c'est un autre moyen d'expérimenter la ville qu'on connaît, qu'on habite. Et donc, voilà, c'était un peu le prémisse.
Mais il y avait une curieuse de chaise qui accompagnait cette visite-là que tu nous faisais faire.
Oui, oui, la visite se fait à partir d'une chaise, une chaise qui est centrale dans l'espace. Et cette chaise-là est en fait un dispositif sonore que j'ai conçu. Et c'est tout simplement une boussole électronique. Et c'est une chaise de bureau banale, ordinaire.
Comme chez Bureau, en gros.
Exactement. En fait, c'est IKEA. C'est léger, ça démonte rapidement, ça remonte rapidement. Et donc, je l'ai modifié. J'ai mis des bras en bois et j'ai mis des senseurs. Donc, il y a deux senseurs. Il y a une boussole électronique qui nous donne la direction. Et il y a aussi un slider audio qui est sur la chaise. C'est un slider ordinaire.
Une sorte de un contrôle fader,
oui,
c'est ça?
Oui, fader. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais en tout cas, il est là et ça contrôle... Normalement, dans un système de son, ça va contrôler le volume. Mais ici, je traduis l'idée du volume, pas en termes d'amplitude du son, mais plus en termes d'espace. Donc, à partir du épicentre, qui est la chaise, j'avance dans l'espace et je change. Donc, si je monte le slider, je sors de ma position centrale et je m'en vais vers l'extérieur de la ville.
C'est comme une sorte de zoom sur que tu fais physiquement sur la ville, quelque part.
Voilà, voilà. Donc, je suis quasiment comme une onde sonore moi-même. Je transperce les murs, je m'en vais. Donc, si je pointe le son vers... qu'est-ce qui est dans l'Université Laval, qui n'est pas très loin. Je pointe la chaise dans cette direction-là et j'avance. Et tout d'un coup, je me trouve dans une ambiance acoustique de ces édifices.
Peut-être pour orienter un peu les auditeurs, en fait, moi, j'y étais à cette performance. Quand on arrive dans la salle, il y a trois cartes géographiques de la ville de Québec. Donc, c'est en premier lieu, on s'assoit, on voit les trois cartes. Et par la suite, on te voit arriver au centre de la pièce et tu fais aller également des hélicoptères. Je ne sais pas, téléguidés?
Oui.
Exact. Bien, un hélicoptère et par la suite, bon, il y a tout un scénario qui est fait par rapport et à l'hélicoptère et à la chaise. Donc, je trouve que c'est important de préciser les cartes puisque on voit, quand tu bouges sur la chaise, on voit vraiment le mouvement que tu ferais finalement. C'est comme une espèce de dérive dans la ville, une psychogéographie, comme si tu dérivais justement dans la ville et plus qu'on s'en allait vers la gauche ou vers la droite, on entendait les bruits qui se passent à cet endroit. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien
non,
comme
non,
ça que
tu... Non, c'est bien. C'est sûr que, oui, ma démarche est influencée par le situationniste et Guy Debord et toute cette, cette théorisation, comment on peut jouer avec la ville en tant que, pas objet trouvé, mais monde trouvé, si tu veux. Mais cette idée-là, de, justement, d'avoir cette carte... Faudrait peut-être juste préciser un peu le titre. Ça s'appelle « Moteur de réalité ». Donc, je joue avec l'idée des moteurs, en fait, tout le long de la pièce. Au début, je tire une bande magnétique à partir d'une cassettophone pour me rendre à la chaise. Oui. Et ça, en tant que posture, c'est moi le moteur. C'est, j'ai désengagé le moteur, c'est moi qui prends le ruban et j'avance dans l'espace en adoptant le rôle du moteur de la machine. C'est aussi un petit clin d'œil à ma démarche. Je tirais du tape à Québec il y a une vingtaine d'années. Mais c'est un vocabulaire que j'utilise de temps en temps. Donc, je suis le moteur, je rentre au centre, et là, je relâche une sorte de cri, je fais un rappel aux gens qu'on n'entend pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'on est. Et je lâche un cri dans une enregistreuse et je la lance. Donc, c'est une sorte de bombe à son, si tu veux. Le cri se déplace dans l'espace, ça frappe un mur, ça fait une chute vers le sol. Donc, je voulais juste nous amener à cette hauteur, cette idée d'être au-dessus de la ville. On voit très bien autour de nous trois cartes, Google. C'est vraiment
des photos aériennes.
Oui, des photos aériennes qu'on ne voit pas. Mm-hmm. On n'a pas cette relation avec la ville. On est plus sur le territoire qu'au-dessus de la carte. Et à partir de ce moment-là, je vole un petit hélicoptère téléguidé. Et je fais exprès pour ne pas pratiquer avec cette technique-là.
qui est très drôle, qui est très comique d'ailleurs.
Oui.
C'est... Il y avait quelque chose de cabotin aussi là-dedans.
Mais c'est pas que. Ouais, j'ai peut-être le temps de le faire, je ne sais pas, mais oups. C'est ça, je veux garder un regard neuf, une technique jeune avec cet appareil. Donc. C'est ça. Donc, je ne maîtrise pas l'hélicoptère, ce qui donne une certaine. Cette vertige au spectateur, un peur que...
Ça crée une tension, parce qu'on se demande comment ça va se passer le reste s'il n'est pas capable de contrôler son petit hélicoptère. Qu'est-ce qui va arriver du reste? James, on pourrait peut-être écouter une partie de ce que tu as fait jouer hier avec ta chaise, donc la version Québec, parce qu'on va pouvoir par la suite parler de d'autres versions qui ont été jouées ailleurs.
Très bien.
Est-ce qu'on peut commencer par Québec?
Oui.
Donc, en fait, là, nous sommes en studio avec la chaise. Donc, James Partec va performer en direct dans le studio.
Donc, c'est beau.
Alors, James Partec en performance en direct à la radio.
Sort pas l'image. au Grand Journal. Eh bien, mais...
Des événements, c'est tout près du Grand Théâtre. Ouais, là. Alors, lorsqu'on voit la voiture, donc, a reçu une bombe lacrymogène. Intérieur, il voyait tout ça.
Oui. Vous avez rencontré un citoyen qui, lui, a eu de sérieux problèmes en fin de semaine.
Oui, c'est toute une histoire, en fait. Donc, oui, un propriétaire qui est assez découragé. On va voir l'état de la... En ont profité, donc, pour éteindre l'incendie. Ça a duré...
On est revenu? Alors, il fallait voir James pivoter sur sa chaise, parce que ce que vous n'avez pas vu, chers auditeurs, c'est que James Partey était sur sa chaise et il tournait. Donc, c'est en tournant qu'il réussit à faire actionner ces sonorités-là qu'on a entendues. James, il y a aussi des... C'était pas la première fois que ce projet-là était présenté. Il s'applique à différents endroits. Tu l'as joué à Sao Paulo, au Mexique. Ici, c'était une version au Québec. Parle-nous des autres versions, donc on va peut-être entendre une par la suite.
Oui, donc... Donc, je l'ai fait... En fait, la première fois que je l'ai fait était à la ville de Mexique. Faut peut-être juste mentionner que ce projet-là dérive... d'un autre projet qui était transsexonore, qui était basé sur la chaise, mais c'était une installation interactive.
Mm-hmm.
Et par la suite, j'ai vu le potentiel de travailler le dispositif en tant qu'accessoire performatif. Donc, on m'a invité à extérer ça, à faire une performance. Et là, je voulais travailler avec l'espace acoustique, mais aussi l'immense, l'architecture là-bas, c'est une ancienne cathédrale. Et en fait, c'était le plus grand dôme du Nouveau Monde à l'époque.
Donc, là, on parle du Mexique?
On parle du Mexique, okay. Oui. L'espace, ça s'appelle Exteresa, dans la ville même de Mexico. Okay. Et c'est au centre-ville, près de Zocalo. C'est vraiment le cœur de la ville. Donc... J'ai transformé ma chaise en accessoire performatif et l'idée du hélicoptère, en fait, est venue au Mexique parce que j'avais cet immense espace architectural avec un dôme très, très, très haut et je voulais travailler avec la verticalité. Okay. Donc, j'ai eu l'idée, justement, d'aller visiter le haut avec cet hélicoptère. Donc, ça a eu totalement une autre, intention dès le départ. Cette intention se transforme, le vocabulaire se transforme de ville en ville. Donc, je l'ai fait au Mexique et évidemment, le Mexique est un autre lieu sonore comparé à Québec. D'ailleurs, j'ai trouvé ça particulier de le faire ici en hiver. le son est sourd. On a eu beaucoup de neige cette semaine. Toutes mes prises étaient plus du déneigement et des cafés, des choses comme ça.
Des chants de Noël.
Des chants de Noël. Et donc, au Mexique, on est dans une culture de rue. On est dans un lieu saturé par le son.
Mm-hmm.
Et donc, c'est le contraire. C'est d'aller chercher des sons subtils, des sons plus silencieux, des sons... à l'abri de cette ville un petit peu. Donc, je traverse la ville de la même manière que j'ai fait ici. Et je prends à peu près une dizaine de jours pour faire une cahier de son. Par la suite, je construis ma carte et je l'interprète.
D'accord. Donc, en fait, par rapport à l'hélicoptère qu'on parlait tout à l'heure, on parle toujours de l'hélicoptère téléguidé?
Oui.
Donc, au Mexique, c'était vraiment une idée de spatialisation de hauteur, finalement, de jouer avec la ville, mais de façon à... Je trouve pas le terme, là, mais finalement, comme si on voyait la ville de haut. Ici, parce que quand on a vu la performance, on voyait aussi que dans la projection des cartes, l'hélicoptère allait directement sur la carte, comme si c'était l'ombre de l'hélicoptère qui était sur la ville. Donc, en fait, là, c'est toujours la même... Est-ce que tu vois cette spatialisation sonore et visuelle de la même façon Mexique-Québec?
Non, ça a beaucoup changé d'une ville à l'autre. D'ailleurs, la projection, l'ombre, c'était improvisé ici.
Okay. Tout d'un coup, ça fonctionnait très bien.
L'hélicoptère dans le ciel et j'ai vu tout d'un coup l'hélicoptère sur les écrans.
Il y avait un petit rappel du sommet des Amériques aussi. Oui. Au sommet des Amériques, on a été inondés d'hélicoptères dans le ciel.
Exactement.
Tu n'avais pas fait un projet d'ailleurs par rapport au sommet des Amériques.
Oui, en effet, justement. Mais j'ai utilisé des sons que j'avais captés lors du sommet des Amériques. Et donc, oui, les hélicoptères faisaient référence à ça. C'était les hélicoptères de sommet des Amériques. C'était quand même un petit cadeau du ciel au Mexique. Il y avait une sorte d'urgence à côté de mon hôtel, une mini-explosion souterrain. Les hélicoptères sont arrivés, les médias, juste le jour avant ma performance. Donc, j'ai pu capter les... En fait, dans toutes les villes, j'ai eu un rapport avec les hélicoptères. Ouais.
Est-ce qu'on peut en entendre un bout de cette version-là mexicaine?
Oui, okay. Oui.
Alors, donc, c'est le moteur de réalité toujours, mais version Mexique. Mexico? Mexico. Alors, notre ami James est en train de chercher dans les dédales de son ordinateur, dans sa mémoire vive, voir s'il ne peut pas trouver cette...
Donc, peut-être répéter la phrase que James a précisée tout à l'heure. On n'entend pas la réalité telle qu'elle est, mais telle que l'on est. Donc, que j'aime bien. Je trouve qu'il fonctionne quand même bien avec la performance.
Okay. Donc, c'est comme tout est relatif quelque part, hein? D'ailleurs, c'est sur cette parole-là que James avait commencé sa performance en nous lançant ça. Et une fois qu'il a eu lancé cette parole pleine de sens, il a commencé à s'amuser avec son hélicoptère.
Tout à fait. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, Jean-Pierre, mais depuis qu'on a débuté les émissions, on a toujours la notion de territoire qui revient à chaque, presque à chaque émission. Il y avait Ariane Plante qui parlait de territoire, qui travaillait beaucoup avec l'espace.
Julie Faubert
aussi. Herman Colgan le fait aussi. Là, il y a James Partec, Tambien.
On s'en va au Mexique.
Ouais, c'est ça. On s'en va au Mexique, donc James Artek aussi. Il y a vraiment, en art audio, il y a vraiment quand même une importance beaucoup à tout ce qui est notion de territoire, notion de dérive également dans la ville. Donc ça, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être exploité éventuellement.
Oui, effectivement. Oui, on pourrait... Je sais que James a déjà fait une émission de radio qui avait mis à contribution une vingtaine de radios. Ça pourrait être l'objet d'un autre, on va lui en parler. Ça pourrait être l'objet d'un autre projet où la question de territoire pourrait être vue de façon différente par différentes radios qui pourraient témoigner de leur manière de s'approprier le territoire ou de l'explorer.
C'est ça, différents artistes un petit peu partout.
On est prêt? Time out?
Quelques dédales à préciser. On répète que c'est une intervention en direct. Donc là, il est avec nous, avec sa chaise, là, quelques bidules électroniques à remanier.
À ajuster. Ben, c'est ça, l'art en direct aussi. Hein?
Tout à fait.
On est dans le domaine de l'art audio, mais des nouvelles technologies aussi qui font appel à des ordinateurs, à toutes sortes de machines. Puis ces choses-là, il faut que ça se mette en branle à un moment donné. C'est ça. C'est pas comme un cadeau qui nous vient du ciel toujours. Là. C'est pas comme de jouer des maracas. Il faut mettre tout ça ensemble. Il faut que ça parte à un moment donné. Puis James est en train de fouiller ça, là.
Para mejoramiento de nuestra familia, de nuestra.
Qui résonne beaucoup même.
Mi realidad que es la noche. La tristeza, la melancolía, los ensueños, las pesadillas son mi deleite. Eso es para mí mi realidad. El arte, la música oscura, música que me lleva a otros mundos que aquí no existen. Las épocas antiguas que en mí yacen, por eso yo me visto.
Thank you. Nos estamos...
Alors, de retour à la croche-oreille sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec, c'est Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay avec vous, notre invité cette semaine, James Partaik, qui nous a amenés au Mexique. Et j'imagine qu'on va aller quelque part ailleurs, Myriam, avec James?
Oui, ben en fait, ce qu'on vient d'entendre était aussi la réalité sonore, moteur de réalité, pardon, qui a été présenté aussi au Mois Multi, mais sauf que ce qui a changé, qui a été modifié aussi pour le Mexique. Au Mexique, t'as cette installation-là, t'as un terme qui est installation, qui revient souvent dans ton travail. Je crois que cet moteur de réalité a été au Mexique une installation. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette notion d'installation qui n'est pas habituelle à nos oreilles? C'est quoi une installation pour toi?
Oui, bien, installation, c'est un terme, je pense que ça a été lancé par Brian Connolly. C'est tout simplement le travail qu'on fait en tant qu'artiste fait partie d'une action. Et cette action-là est aussi présentée pas forcément comme une performance où on a un début puis une fin, mais c'est une action qui vise justement à travailler et laisser en place une installation.
OK.
Donc, l'installation est forcément quelque chose qui comporte la notion de la trace. On était présent, on fait un certain nombre de choses, on laisse des traces, et ces traces-là sont des témoignages ou des objets signifiants qu'on utilise dans une installation. Donc l'action et installation sont combinés pour faire ce mot que j'apprécie.
Oui.
Parce que ça parlait beaucoup de ma démarche, dans le sens qu'il y a toujours cet élément-là de performance et installation qui sont combinés. Et dans ma démarche, en fait, il y a souvent l'élément de plutôt relationnel, c'est-à-dire que je sculpte la vie, la ville, et je vais à la rencontre. Cette fois-ci, c'était des enregistrements, mais ça peut être autre chose. Par exemple, au Mexique, à Exteresa, j'ai déjà fait une autre installation sonore. Et c'était tout simplement une invitation pour faire un son, ici avec Avatar, une installation sonore. Et je voulais que les gens expérimentent la dimension acoustique de cette cathédrale. Donc, au lieu d'amener mes sons, j'ai essayé de provoquer les sons chez l'installateur, on peut dire.
OK.
Ceux qui vont agir dans l'installation, ils deviennent acteurs eux-mêmes, ils agissent dans l'espace. Donc, j'ai tout simplement mis sur place un autre dispositif qui était 13 haut-parleurs submergés dans des bassins de liquide blanc. Sur un tapis de sel, gros sel. Donc, on rentre dans l'espace, et l'espace est... en fait, l'espace est silencieux, et quand on marche sur ce tapis de sel, on a, par inadvertance, c'est impossible de ne pas faire du son, et ces sons-là sont captés, sont réinjectés dans le système. Et là, on a des petites vibrations qui apparaissent sur la surface du liquide. Et au fur et à mesure qu'on expérimente l'installation, on comprend que c'est nous la source sonore. Et au fur et à mesure, les gens commencent à jouer plus avec l'espace. Et là, mon but était de voir quelqu'un dans une église qui hurlait et qui expérimente les dimensions acoustiques de la pièce.
Qui occupait le grand
espace. Oui.
Puisque donc, cette installation-là était dans une église, est-ce que je comprends?
Voilà, c'était dans Exteris, le même lieu où j'ai fait l'hélicoptère.
OK. Et,
donc, mais sauf que c'était en 2001. Donc voilà, donc j'ai donné cette occasion ou cette incitation à produire du son dans l'espace. Et voilà, donc c'était à la fois une installation, mais aussi pour ouvrir l'espace, j'ai fait une sorte de performance qui mettait en place tout le système. Donc c'est toujours cette idée de donner une installation et donner une action au début.
Puis, un autre terme qui est très important dans ton travail, dans ta démarche, c'est techno-nomadisme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que le techno-nomadisme, même si on peut comprendre un peu par le terme?
Oui, ben c'est ça. Le techno-nomadisme, c'est vraiment travailler avec une technologie qui est légère, avoir la capacité de bricoler sur place et d'adapter mon travail. Parce que je me déplace énormément, j'aime beaucoup travailler dans des villes que je ne connais pas. Donc, j'avais besoin d'une sorte de système où je pouvais m'adapter. Donc, ma démarche est ancrée dans une recherche plus in situ.
Mm-hmm.
Donc, je ne prédétermine pas totalement ce que je veux faire. Évidemment, j'arrive avec mon bagage culturel, mon bagage réel, avec un fer soudé, avec un ordinateur, avec un système.
Voyage pas léger.
Mais c'est pas très lourd non plus. En fait, la plupart de mes œuvres, j'amène dans une valise.
Mm.
Puis dans le cas que je viens d'expliquer, on ajoute de l'eau, puis ça devient une grande installation.
Mais comme quand tu es arrivé ici avec ta valise.
Oui.
Et ta chaise.
Exactement. Et je me branche un système, mais c'est quand même assez expansif.
Dans l'espace.
Comme travail. Donc, c'est ça. J'arrive avec mon bagage, avec mes choses, et j'essaie quand même d'être pertinent par rapport à ce qui est autour de moi. Je suis très sensible à la notion de contexte.
Mm-hmm.
Et souvent, ça suggère une autre intervention que ce que j'avais imaginé. Et là, je veux avoir la possibilité de travailler directement sur place.
Mais c'est quoi qui est le moteur, justement, de ta création? Parce que, dans le fond, tu arrives à un endroit, mais comment tu fais pour... C'est quoi le processus de création? Parce que quand tu arrives, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que je comprends?
Non, c'est pas que je ne sais pas ce que je veux faire. C'est que ce que je fais a toujours une certaine sorte d'ouverture. Une ouverture vers... c'est beaucoup plus que juste un greffage de mon idée dans un site. J'essaie de m'informer sur le site avant d'y aller, d'avoir une bonne idée de ce que ça signifie, de ce qui se passe dans ce site-là. Je fais quand même une certaine recherche, mais la proposition n'est jamais... boîte blanche, boîte noire, voilà, j'ai ça et c'est ça que je présente. Il y a toujours cette ouverture pour l'adapter à mon site.
Okay.
Et comme tu vois, je fais un enchaînement de villes, il y a toujours cette continuité dans le travail quand même.
Donc justement, pour Moteur de réalité, ça a été fait à Québec. Celle de Québec était très différente de Mexico et de Casablanca aussi.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est ça, en fait, te présenter cette performance-là également à Casablanca.
Oui, oui.
Donc, est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration de cette performance?
Oui, oui, ça.
Donc, avec les sons de Casablanca, donc en performance.
Et sa chaise.
Et sa chaise, oui.
Yeah. avec lui, ta vidéo?
هاد المود لا شيء من شيء مو بلاد
فين
إيه
ولا صعيبة
خير كم الجريسة صار عجلة وبنهار عيب الله واحد المود تير على واحد
عندك واحد 50
يمكن زين تم الدنيا ولا صعيبة
خير كم الجريسة
Alors, nous pouvons remarquer que c'est très différent de Québec à Mexico, à Casablanca.
Trois paysages sonores vraiment différents. On voit très bien que chacune de ces villes-là a sa personnalité, sa charge de son, hein, tu sais, Casablanca versus Québec, là, c'est des lunes de différence en termes d'intensité sonore puis de quantité de bruit qu'on entend. Là.
Oui,
ouais, on peut vraiment voir que le son est quand même une identité culturelle. Mm. Et c'est quelque chose qui est très lié avec les activités, avec la géographie, avec tout ce que ça implique, toute l'activité humaine de la ville.
Donc, on était sur le techno-nomadisme tout à l'heure. Je crois que tu as fait plusieurs œuvres sur c'est pas un thème, mais sur ce principe, cette notion de techno-nomadisme. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Est-ce qu'il y a une œuvre qui est encore plus représentative de ça?
Oui, mais on constate aujourd'hui justement qu'avec la technologie, la miniaturisation, etc., on rentre dans peut-être une période qu'on peut déjà dire post-PC, dans le sens que l'ordinateur, maintenant, n'est plus qu'il était il y a très peu de temps. On a de plus en plus des petits ordinateurs dispersés dans l'espace. Chaque objet, maintenant, porte son petit processeur, etc. Et c'est une réalité, c'est une tendance technologique de rendre cette technologie invisible et de le mettre en réseau. D'ailleurs, ma chaise est une sorte d'exemple de ça, dans le sens qu'il y a un petit ordinateur dans la chaise qui envoie par un système Wi-Fi toutes les données, etc. Donc, je m'attelle énormément à cette tendance informatique et de rendre comment le traitement d'information va s'insérer dans la vie quotidienne, etc. Mm. Donc, je travaille beaucoup avec un système qui s'appelle Wiring, qui est une mini... microcontrôleur, c'est un microcontrôleur, on le programme, et c'est assez facile d'accès. Et cette technologie est en pleine expansion, même dans la communauté artistique, et beaucoup d'artistes. En fait, ça a vulgarisé et ça rendait accessible cette technologie-là, qui d'autrefois, il fallait avoir un ingénieur avec nous pour travailler carrément, ou quelqu'un qui est très ferré en informatique, etc. Mais là, on a des outils beaucoup plus...
Oui, iPhone fonctionne comme ça. On peut travailler, on peut passer des choses d'un appareil à l'autre super rapidement, super facilement, puis c'est rendu habituel et quotidien, à la limite.
Oui, oui.
Tout à fait.
Donc, dans cet esprit-là, j'ai fait une installation dans la ville de Fribourg, en Suisse, qui s'appelait City Hack. Et c'était justement hacker la ville. Oui, hacker la ville, prendre les infrastructures existantes dans la ville et les détourner. Donc, j'ai travaillé avec Guillaume Labelle et Julien Nembrini sur ce projet-là. Et on a carrément installé une cinquantaine de petits microcontrôleurs dans la ville qu'on pouvait contrôler à partir d'un camion stationné dans un stationnement. Et on pouvait actionner...
Ça se passait le soir.
Le soir, c'est ça. Puis on pouvait actionner des petites solénoïdes, des sons cachés dans l'espace, aussi ouvrir et fermer les lumières. Donc, créer une sorte de dysfonctionnement dans l'infrastructure qui nous fait questionner ces infrastructures-là, mais aussi donner la notion de présence. T'sais, on ne sent pas seul. Quand on marche dans un parc et une lampe ferme, OK, ça peut arriver. On va un peu plus loin, la deuxième ferme. Le troisième, ce n'est pas normal.
Comment ça, c'est que quelqu'un a pris le contrôle sur la ville. Hein?
Exactement.
Donc, une sorte de Big Brother, quelque part, qui intervient, puis on ne sait pas où est-ce qu'il est.
Voilà. Donc, toutes ces questions-là viennent à la surface, et on commence à regarder autour de nous, on entend toutes sortes de choses, et là, on peut converser ou fuir, je ne sais pas, mais on a vu les deux.
Donc là, c'est pas en son, c'est plus en lumière, finalement? Il y avait du son également?
Oh oui, du son. Chaque objet ou chaque intervention possible avait soit un contrôleur de lumière ou de son. Donc, on avait des petits oiseaux de nuit ou on cognait sur du métal dans des containers, sur des poteaux, etc. Okay. Donc, il y avait comme une spatialisation sonore et des événements lumineux qui...
Et tout ça était contrôlé dans un poste de contrôle, si je peux dire.
Exactement.
Dans un camion.
Oui.
Puis là, tu actionnais tel ou tel mouvement de lumière ou tel son à distance.
Oui, ce n'était pas interactif. C'était vraiment une installation... une conversation. Mm-hmm. On était là, on était présents.
Ah, c'est une performance, finalement.
C'est une sorte de performance technologique. Moi, je pense qu'on peut dire plutôt une intervention.
OK.
Dans le sens qu'on on occupe une partie de la ville et on détourne ses fonctionnements. Donc...
Puis un peu dans le même principe, on va en revenir à cette installation et intervention. On va revenir tout à l'heure parce qu'on va pouvoir entendre justement une partie de cette pièce, c'est bien ça?
Oui,
c'est beau.
Puis dans la même idée que de sculpter la ville, mais directement faire une œuvre en espace public, t'as travaillé également à Saint-Félicien, dans les bouches d'égout de la ville. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette...
Oui. En fait, on était invités pour travailler avec un commerce.
Donc,
l'invitation était assez précise.
Et c'est un privé.
Privé ou comme on voulait, juste coupler notre travail avec une intervention. Donc, une intervention avec un commerce. Donc, j'ai choisi de travailler avec, en fait, trois commerces. Un qui était le zoo de Saint-Félicien.
Okay.
L'autre était le clinique électronique de Saint-Félicien.
Comment ça s'appelle, le clinique électronique?
Clinique électronique avec Florent Roy, qui était génial, un ex-militaire, qui m'a aidé à concevoir un dispositif sonore que je pouvais mettre dans le système d'égout.
Okay.
Donc, j'ai travaillé avec la ville aussi pour avoir accès aux égouts. Donc, on a construit un système qui était avec des haut-parleurs qui dirigeaient le son dans les tuyaux transversaux qui connectaient toutes les bouches d'égout ensemble. Le système était un réseau de spatialisation par excellence. Et le son, dans un tuyau fermé comme ça, voyage
super bien.
Oui. Donc, c'était un système de spatialisation sonore par excellence dans la ville. Donc, j'ai fait des enregistrements lors des collations au zoo des animaux. Et j'ai mis sur les bouches d'égout, tout simplement, j'ai plaqué de l'aluminium, les bouches d'égout, juste pour comme suggérer un peu les cages de...
OK.
Et des animaux aussi une résonance avec l'activité économique de la région, parce qu'à l'aluminium, le zoo, tout ça, c'est vraiment des choses importantes. Et... pendant 2 jours, en continu, on a diffusé les sons des animaux.
Et, dans les bouches d'égout.
Dans les bouches d'égout. Donc, il y avait une spatialisation un peu partout dans la ville. Ce n'était pas juste là où j'avais mis mon dispositif. On pouvait l'entendre assez loin. Donc, ça, c'est une autre façon de détourner une infrastructure de la ville déjà existante. Donner une autre fonction et créer une pièce qui parle aux gens.
Tu as été reçu comment?
Moi aussi, je me posais la question.
Oui, je dirais qu'il y avait vraiment deux façons. Le jour, c'était plutôt amusant. Beaucoup de questionnements que ce que c'était. Par exemple, un grognement d'un cougar qui a faim. Dans une bouche d'égout, ça ne sonne pas comme un cougar comme tel. Ça suggère d'autres interprétations. Donc, il y avait toutes sortes de questionnements autour de ça. Mais la nuit, j'avoue que j'ai vu fuir des gens.
Les gens devaient être
terrorisés. Oui, il y avait un petit peu peur de ces sons-là parce que c'est quand même des... c'est quasiment des sons mythiques, des animaux dans les égouts et toutes sortes d'histoires.
Et amplifiés aussi.
Amplifiés.
Ah, parce que ces bouches d'égouts-là, ça véhicule facilement le son aussi.
Oui. Donc, il y avait un peu de tout dans ça.
Donc, merci beaucoup.
On a encore un petit 2 minutes. Moi, j'aimerais aborder avec... James, il y a quelques années, en 1995, tu as fait un projet de radio avec une vingtaine de radios. Qui interpellait la notion de territoire. Hein. Là, on était vraiment dans différents pays, différentes villes. C'était quoi ce projet-là?
En fait, ce projet-là, Horizontal Radio, c'est ça?
Mm-hmm.
Oui, c'est Jocelyn Robert qui m'a invité à travailler avec lui sur ce projet. Et c'était la mise en réseau simultanément de ces radios à travers, surtout en Europe, mais aussi ici au Canada et d'autres. D'autres places, je crois. Et tout simplement, on était un nœud dans le réseau. C'était à l'époque Avatar, on n'avait pas de local ici comme à Méduse. Je suis allé chez Jocelyn dans le Vieux-Québec et on travaillait avec des systèmes téléphoniques. On était en direct et on était tous les deux avec un téléphone à l'oreille et on faisait des interventions. Jocelyn posait des questions, je faisais des sons et on envoyait notre son dans le... C'est comme un son tributaire dans un grand fleuve de sons. Donc, on faisait partie de cette mix-là.
De ce grand ensemble.
Ouais, ouais, exactement.
Puis, c'était parti de où, ça? Parce que là, en fait, il y avait cette diffusion-là pendant 24 heures de temps. Vous n'étiez pas seul artiste ou oui?
Ben non, non,
c'est
non,
ça,
non,
il y avait
non,
plusieurs artistes de partout à travers le monde, c'est ça?
Oui, puis c'était beaucoup piloté, je crois, de partir aussi au Canada et par Jocelyn. En fait, il était une des...
Personne
des nœuds importants.
Ben, on va penser à ça. Je pense que peut-être qu'on pourrait peut-être faire une réédition de ce... version modifiée de ce projet-là.
Oui,
que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd quand j'ai vu ça.
Peut-être récupérer l'idée.
Oui. Ben, c'était James Partec qui était avec nous cette semaine. Merci beaucoup, James, d'être passé chez
plaisir.
Nous.
Grand plaisir, merci beaucoup.
Et on va se laisser donc sur cette dernière pièce qui vient de Fribourg.
Oui.
C'est l'installation de Fribourg. Alors, on se laisse là-dessus et on se dit à la semaine prochaine.
J'aimerais juste mentionner une chose. C'est une collaboration que j'ai faite avec Guillaume Labelle, qui vient de décéder.
Mm.
Donc, on va peut-être dédier cette écoute à Guillaume. Je sais qu'aujourd'hui, on offre nos condoléances à Palais Montcalm pour lui. Il vient tout juste, jeune artiste de la ville de Québec qu'on vient de perdre. Vraiment.
Ben, on va lui dédier cette pièce-là.
Oui.
Merci, James.
Merci beaucoup.
Merci, James.
En train de tout casser dans la ville. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien.
Oh, puis c'était jamais rose et vert.
Oh, là-bas aussi. En haut, là. La dernière. C'est le bon, ça. Mais c'est quand même pas bien. Ce n'est pas viable.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique.